commence donc par l'idée culture, ce dernier quart d'heure des matins du samedi, avec une personnalité qui vient du monde des idées et qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Natacha Triou, qui donc avez-vous rencontré?
J'ai rencontré une grande figure de la sociologie en France, Alain Touraine.
Et qui s'est beaucoup intéressé d'ailleurs au continent latino-américain.
Exact, et bien depuis 60 ans, en fait, ses travaux portent sur les mouvements sociaux, sur notre société post-industrielle. Il est l'auteur d'une quarantaine de livres et il a publié récemment « Défendre la modernité » aux éditions du Seuil. Alors pour son idée culture, Alain Touraine a choisi de nous parler d'une icône, d'Arthur Rimbaud. Et pour lui, Arthur Rimbaud est une œuvre d'art totale.
Moi j'étais, si vous voulez, adolescent, jeune homme, lycéen, pendant la guerre. Donc dans une époque où on était écrasé, étouffé, isolé, coupé du monde et en même temps honteux de ce que notre gouvernement et notre pays avaient fait. C'est pourquoi il y a eu une sorte de culte pour les gens qui représentaient le côté wild et alors en France, ça s'appelait Rimbaud.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais.
Le bateau ivre a beaucoup de sagesse. C'est une pièce très longue et un peu trop classique, je dirais, dans sa construction. Et c'est quand même plutôt le Rimbaud des illuminations, si vous voulez, dans l'ensemble, que je préférerais. Mais ce qui me touche, c'est cette capacité qu'a eu Rimbaud d'aller dans l'échec, d'aller dans le refus pour s'en sortir, pour trouver ce qui est essentiel en soi-même et dans le monde. De ne pas être, disons, du bon côté de la route, si vous voulez. Il faut vouloir être le créateur de soi-même.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur.
C'est-à-dire, c'est un homme qui parle comme un homme d'expérience, un homme qui a rencontré d'immenses difficultés, etc. Et que, probablement à son époque, dans sa famille, à Charleville, vous vous rendez compte, perdu dans les Ardennes, c'est un homme d'expérience, de sagesse, en pleine adolescence tumultueuse. Moi, je n'emploierai pas le mot « un homme de désir » parce que je n'aime pas trop ça, je dirais moi. Un homme qui se crée lui-même. Je trouve que c'est quand même, de toute évidence, pas le vers de Rimbaud. Les vers renvoient à Rimbaud. C'est quand même le type, le garçon de cette époque-là qui est pour moi un exemple, parce que c'est à coup de rupture qu'il va à l'essentiel et qu'il se découvre lui-même. Voilà.
On a bu de l'absinthe comme on boirait de l'eau. Et je t'aime, oh mon Dieu, que c'est beau, le plus beau qu'un poème de Verlaine.
Un mot, Jeannette Abel, sur Alain Touraine, Arthur Rimbaud.
Oui, un sociologue qui a beaucoup travaillé, étudié, écrit sur l'Amérique latine et qui en particulier a bien connu le Chili, mais pas seulement le Chili pour des raisons familiales. À ce propos, juste une remarque à propos de l'univers rimbaldien. Rimbaud a beaucoup écrit sur les Tarahumaras, sur les Indiens, et des choses qui, pour l'époque, étaient extrêmement rares, parce que ses études, de la part des ethnologues, etc., étaient quand même assez limitées. Donc c'est pas tellement étonnant finalement que Alain Touraine retrouve des sources françaises, mais aussi un peu latino-américaine chez Rimbaud.
Vous citez le Chili comme pays de prédilection d'Alain Touraine. Qu'est-ce qui a fait, vous, personnellement, Jeannette Abel, que vous vous êtes tournée vers le continent latino-américain pour vos études et vos recherches?
Écoutez, d'abord, des raisons familiales, parce que j'ai eu un père qui était un juif russe, très polyglotte, qui donc parlait plusieurs langues, qui, à partir de ses engagements politiques dans sa jeunesse, s'est intéressé pendant une première période à l'Amérique latine. Et ensuite, parce que j'ai eu des professeurs absolument formidables au lycée. J'ai étudié l'espagnol. D'ailleurs, j'ai par la suite commencé par faire une licence d'espagnol avant de faire tout à fait autre chose. Et ce sont ces professeurs qui m'ont vraiment motivée sur l'Amérique latine. On en avait des cours. Hein. Il faut comprendre que même en terminale, en espagnol, on avait des cours sur les civilisations précolombiennes. On avait des cours ensuite sur les guerres d'indépendance au 19e siècle. Des cours qui ont maintenant disparu, j'ai l'impression, des dernières années de lycée, mais qui ouvraient un horizon qui était complètement différent de l'horizon européen. Donc, raison familiale et raison héritage professoral du lycée.
Éducatif. Jeannette Abel, comment dit-on crêpe en espagnol? Est-ce que vous vous souvenez?
Comment
on dit crêpe?
Ah, galletas.
Galletas. Eh bien, nous allons parler de galletas à 8h52.
Mais attendez, galletas au Mexique, notamment, mais il n'y a pas qu'au Mexique, hein, elles sont faites avec du maïs. Et avant avec du maïs mexicain, aujourd'hui avec du maïs importé des États-Unis. Mais donc ça n'est pas du tout la même chose que nos crêpes bretonnes, par exemple.